information. Merci à vous de l'avoir suivi.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous. Merci d'écouter VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous, Lionel Onamilakarima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de l'Afrique et de l'administration Biden. Avec nos invités, nous abordons les questions économiques et démocratiques. Quelle politique adéquate est nécessaire pour relever les défis africains? Nous en parlons dans un instant. Marcelin Kofi Alé, conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique au FMI. Il s'exprime dans cette émission à titre personnel. Bonsoir.
Bonsoir Eric, merci de me recevoir sur vos antennes.
Le professeur Edgar Colley, ancien du Monterey Institute of International Studies en Californie. Bonsoir.
Bonsoir, très heureux d'être avec vous et bonsoir à mes co-invités aussi.
L'administration Biden a promis de rompre avec la diplomatie unilatéraliste et souverainiste de son prédécesseur Donald Trump. Marcelin, quelle pourrait être la place de l'Afrique du point de vue économique et que peut faire Biden justement?
La politique étrangère américaine, notamment vis-à-vis de l'Afrique, a suivi des canaux presque traditionnels jusqu'à présent, notamment donc dans le domaine de l'économie. Il y a eu beaucoup d'initiatives donc en direction de l'Afrique. Et on retient par exemple l'AGOA, qui donne une opportunité aux pays africains d'exporter des biens et services sur le marché américain. Je pense que ces initiatives-là vont certainement continuer et être renforcées. Mais à ce niveau, c'est beaucoup plus, à mon niveau ou au niveau de plusieurs Africains de la diaspora, c'est beaucoup plus des souhaits, des recommandations. Et en ce qui me concerne, c'est un peu un changement de paradigme que je recommanderais ou bien que je souhaiterais dans le domaine économique en termes de coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Le changement de paradigme, c'est lequel? Jusqu'à présent, la coopération économique américaine vis-à-vis de l'Amérique a été un peu trop, à mon sens, centrée sur l'aide humanitaire notamment. C'est une approche aide humanitaire. Et je préconise qu'on passe beaucoup plus à une approche economic empowerment, qu'on puisse faire en sorte que l'Afrique puisse développer son secteur privé et s'industrialiser de façon massive. Quand vous regardez la plupart des produits qui sont exportés par nos pays vers les États-Unis, ça reste encore essentiellement des produits primaires. En 2011, 92% des exportations des pays bénéficiaires de l'AGOA vis-à-vis des États-Unis étaient des produits pétroliers et dérivés. Ce chiffre est tombé en 2019 à 60%, mais vous voyez toujours la domination donc de ces produits pétroliers. Donc, il y a un missing link, un élément manquant dans le cadre donc de l'AGOA. Ce chaînon manquant, c'est de faire en sorte qu'il y ait un secteur manufacturier dynamique sur le continent qui produit des biens et des services exportables. Tant qu'on n'a pas ce chaînon-là, nos pays vont continuer à exporter des produits bruts, agricoles ou miniers et on ne pourra pas gagner suffisamment en termes de valeur ajoutée donc de ce cadre intéressant donc qui est l'AGOA. Donc le changement de paradigme que moi je préconise au niveau économique, c'est de dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis devaient aider l'Europe, ils n'ont pas envoyé d'aide. Ils ont aidé à reconstruire la base industrielle de l'Europe de l'Ouest et ça a permis donc à ces pays-là de se relever économiquement. Et les États-Unis ont en retour bénéficié. C'est un tel schéma que je préconise pour la coopération États-Unis-Afrique. Il faut cibler le développement du secteur privé pour que nous ayons un manufacturing sector vibrant, dynamique sur le continent. C'est comme ça qu'on va pouvoir régler les problèmes d'emploi et donc donner de la valeur ajoutée à nos économies locales. Que donc l'administration Biden puisse bâtir sur ce qui existe déjà, l'AGOA, Prosper Africa et toutes ces initiatives qui sont, à mon sens, aussi trop fragmentées. Il faut essayer de les réunir sous un parapluie unique avec des moyens conséquents, changer d'approche, cibler le développement du secteur privé qui va profiter au secteur privé américain parce que l'Afrique, notamment avec la mise en place du marché commun africain qui vient d'être lancé en janvier, les États-Unis vont profiter d'un marché de près de 1,5 milliard d'individus avec une classe moyenne qui s'accroît de jour en jour. En retour aussi, c'est des industries, des entreprises qui vont être créées et qui vont produire des biens et services à forte valeur ajoutée et bénéficier aussi donc à l'Afrique. Voici ce que je recommanderais à l'administration Biden pour faire vraiment la rupture et la différence avec les administrations passées et donner un fouet à la coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique.
Professeur Colli, est-ce que la nomination de Mme Samantha Power à la tête de l'USAID, cette agence américaine qui injecte de l'argent dans le développement, est-ce que vous pensez que c'est un signe important de l'attachement de l'administration Biden à l'Afrique notamment?
Oui, je crois que c'est une dame qui connaît très bien le continent. Elle a probablement des relations qui ne datent pas d'hier. C'est toujours un plus de mettre en place une personne qui connaît, qui comprend, qui a des relations. Et il ne faudrait pas aussi se leurrer qui va bien entendu défendre les intérêts des États-Unis. Mais je crois que c'est déjà un signal fort. Quelqu'un que beaucoup d'acteurs africains connaissent déjà, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour avoir une conversation ouverte, probablement fructueuse, c'est déjà un début. Donc, mettre en place une personne qui est qualifiée, qui connaît le continent, qui a des relations, je crois que c'est déjà un plus. Est-ce que cela va porter des fruits autant qu'on le voudrait? L'avenir nous le dira, mais fondamentalement, je crois que sa nomination est déjà un acte positif.
Marcela, il y a un préalable, notamment une gouvernance stable, et là je veux parler de démocratie. Que peut faire Biden pour l'Afrique, en son sens?
En fait, vous, avec l'économie et la démocratie, vous touchez deux secteurs importants pour moi, je veux dire, dans mon analyse intellectuelle. Le secteur de l'économie et le secteur de la démocratie sont des chantiers traditionnels de coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Et ce que moi je préconise, comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'économie, setting new rules, venir avec des approches nouvelles pour marquer la rupture à ce niveau. Le président Biden est en train de faire déjà la rupture, notamment avec l'administration Trump, déjà au niveau interne, au niveau de la politique étrangère aussi. Il y a la rupture en termes de revenir dans des organisations internationales que l'administration Trump avait quittées. Au niveau de l'Afrique aussi, il faut continuer sur ce momentum de rupture et faire des choses différemment. Alors, j'ai abordé l'économie tout à l'heure. Au niveau de la démocratie, un secteur important. Quand vous voyez l'expérience de l'Afrique ces dernières années, l'Afrique s'élève ou s'écroule par la mauvaise organisation d'élections présidentielles et d'élections tout court. Et quand vous voyez ce qui est à l'origine de cela, c'est un contentieux que nos pays ont depuis l'ouverture au multipartisme qui n'est pas réglé jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas d'institutions crédibles pour organiser des élections sans contestation sur le continent. Et tous nos pays plongent à cause de cela. Que ce soit au Nigeria hier, au Kenya hier, tout récemment en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, en Guinée-Conakry, au Mali, tous ces pays connaissent des troubles et souvent du chaos avec plusieurs morts, juste parce que nos sociétés, nos pays n'arrivent pas à s'entendre sur l'institution électorale qui va organiser une élection présidentielle et départager les partis politiques en compétition.
Il y a aussi les Grands Lacs.
Oui, il y a aussi les Grands Lacs. Je veux dire, c'est pratiquement partout en Afrique. Donc, vous convenez avec moi que c'est une question essentielle qu'il faut régler. L'institution électorale est devenue l'institution en Afrique. Et si les États-Unis veulent nous aider, notamment avec des institutions comme le NDI, le National Democratic Institute, il faut vraiment changer d'approche. Le NDI donne beaucoup de ressources financières pour soutenir nos soi-disant commissions électorales indépendantes, mais qui n'ont d'indépendants que de nom. L'approche que je préconise, c'est que désormais, il faut qu'avec l'argent, il y ait aussi une exigence de réforme pour que ces commissions électorales indépendantes soient à des standards internationaux, notamment que ces commissions électorales, ces institutions importantes dans notre vie démocratique, ne soient plus l'apanage des partisans politiques. Il faut que ces commissions et ces institutions électorales soient formées avec des hommes et des femmes de la société civile, reconnus comme étant de grande intégrité morale, qu'on mette ces gens-là ensemble pour former ces institutions électorales, soutenues par les institutions comme le NDI avec du financement. Et c'est comme ça qu'ils peuvent faire du bon travail, du travail non partisan, un arbitrage intègre et impartial de nos élections présidentielles. Et c'est à ce prix seulement que les États-Unis et d'autres partenaires peuvent contribuer à asseoir définitivement la démocratie en Afrique. Et si on ne fait pas ça, nos pays vont continuer à faire des stop and go en matière de développement économique. On se développe, on a de la croissance pour 5 ans. Le temps d'une élection présidentielle, tout s'écroule, on se bat, c'est la violence, et puis on doit recommencer à zéro. Et c'est pratiquement le schéma dans l'ensemble de nos pays. Nous comptons vraiment sur l'administration Biden pour opérer le changement de paradigme et accompagner l'aide financière qui est faite à nos institutions avec une exigence d'indépendance réelle de ces institutions. C'est comme cela qu'on va asseoir la démocratie, et asseoir la stabilité politique et arrêter donc la violence qui sert de terreau au terrorisme sur le continent. L'immigration illégale massive est aussi assise sur l'absence de démocratie dans nos pays et la violence qu'on observe donc pendant l'organisation de ces élections. C'est vraiment le deuxième point fort de moi, mon advocacy, comment on dit ça, mon plaidoyer au niveau donc de la coopération, la nouvelle coopération entre l'administration Biden et l'Afrique.
Professeur Cody, votre réaction sur cet aspect économique et démocratie?
Oui, absolument. Je crois que Marcelin a bien touché du doigt, n'est-ce pas, où se situe le problème. Et je pense que tant que les institutions gouvernementales ne seront pas très fortes, nous aurons toujours une démocratie incomplète, une démocratie en constante construction. Voilà, donc fondamentalement, tant que les acteurs, et je crois que c'est très important, les acteurs, les gens, les personnes, les femmes, les hommes chargés d'organiser les élections doivent jouir d'une certaine indépendance pour que, n'est-ce pas, une certaine transition soit toujours possible. Il ne s'agit pas tout simplement d'aller aux urnes et, n'est-ce pas, les gens qui sont à qui il est confié la tâche d'arbitrer les différents candidats, soit dans la plupart du cas nommés par le candidat sortant, et bien entendu, nous avons, n'est-ce pas, le résultat que nous avons un peu partout en Afrique. Donc, l'administration Biden qui devrait, n'est-ce pas, on pense que ce serait peut-être une approche qui va être poursuivie, accompagner les pays africains dans cette solidification de la démocratie, il faudrait bien entendu mettre en place des mécanismes qui garantiraient l'indépendance de ceux-là qui vont arbitrer les élections dans différents pays. Sur le contexte économique, évidemment, il y a eu un certain désengagement des États-Unis si à l'extérieur de produits pétroliers, comme l'a dit tout à l'heure Marcelin, et donc bien entendu, comme vous l'avez vu, la Chine est venue occuper, n'est-ce pas, un certain vide laissé par les États-Unis et l'Europe. Donc il faudrait, n'est-ce pas, une approche réfléchie, une approche imaginée pour que les États-Unis reviennent en Afrique. Mais évidemment, n'est-ce pas, tout le monde regarde et tout le monde attend quelles seront les différentes démarches que va prendre l'administration Biden envers l'Afrique.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous suivez l'Amérique et vous, Eric Manilakiza, toujours en votre compagnie. Lionel Lunanela Gaïma assure la mise en onde. Marcelin, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité première des Africains eux-mêmes avant de compter sur l'administration américaine?
Bien sûr que la responsabilité première nous incombe à nous les Africains. Nous sommes là dans le cadre de l'Amérique et nous, et ce que les États-Unis donc peuvent faire, notamment de nouveau vis-à-vis de la coopération avec l'Afrique. Donc nous mettons l'accent donc sur ce rôle donc des États-Unis. Mais sinon, bien sûr que la responsabilité première de notre développement, cela nous incombe à nous Africains et notamment à notre leadership. Il faut que nous soyons dans le driving seat en matière de politique publique que nous devons mettre en place pour développer nos pays. Et donc, il n'y a aucun doute donc sur ce rôle que nous devons jouer. Je veux dire, la réponse que je donne à cette question est un peu liée à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance donc d'asseoir la démocratie sur le continent. C'est par des processus démocratiques réussis que nous pouvons élire à la tête de nos nations ce que j'appelle des transformational leaders, des leaders qui peuvent avoir un impact réel sur nos nations, pouvoir aider à solidifier des institutions qui permettent de pérenniser la vie politique, de stabiliser la vie politique, en même temps qu'ils peuvent aussi imaginer des politiques publiques appropriées pour pouvoir amorcer sérieusement le développement de notre continent. Des progrès ont été faits, c'est vrai, ces dernières années en matière de développement économique. Mais comme vous le savez, la pandémie du Covid est en train de compromettre une bonne partie de ces gains que nous avons eus ces dernières décennies en matière de développement économique. Il y a encore des efforts à faire et la responsabilité nous incombe. Nous avons le défi de nous embarquer sérieusement sur l'industrialisation de nos économies, en dehors donc de l'exportation des matières premières, pouvoir faire une diversification économique qui donne des résultats et donne des opportunités d'emploi à la grande jeunesse africaine, qui puisse donc l'éloigner de tous ces fléaux, je veux dire modernes, notamment l'immigration clandestine.
Professeur Colli.
Oui, je crois que c'est une situation qui n'est pas du tout tenable. Évidemment, l'aide qui pourrait nous être apportée par nos différents partenaires internationaux n'est pas à négliger. Mais comme l'a dit tout à l'heure Marcelin, il s'agirait pour nous. Nous avons, n'est-ce pas, les ressources, nous avons les ressources matérielles, les ressources humaines. Il s'agit maintenant de trouver des politiques adéquates pour mettre tout ce monde-là au travail. Ce n'est pas ça qui manque en Afrique. Je crois que tant que nos institutions ne seront pas assez fortes, n'est-ce pas, pour prendre en charge cette question du développement, nous aurons toujours tendance à regarder vers l'extérieur pour une potentielle aide. Nous devons donc absolument nous mettre au travail, regarder en nous-mêmes, parce que nous avons effectivement ce qu'il faut pour le faire. Et pour réussir, n'est-ce pas, ce pari, c'est là où l'industrialisation du continent entre en jeu. Tout ce qui est vendu à l'extérieur en tant que matière première non transformé, il n'y a pas de valeur ajoutée, cela ne crée pas de l'emploi. Donc il faudrait, n'est-ce pas, pour que l'on évite de toujours regarder vers l'extérieur, créer les conditions adéquates pour encourager le développement d'une industrie locale qui emploierait des Africains. Et à ce niveau-là, nous serons beaucoup plus compétitifs et nous allons bien entendu peut-être éliminer ce réflexe de regarder toujours vers l'extérieur pour une potentielle contribution.
Quelles sont les grandes erreurs commises par Washington, par exemple, en matière économique en Afrique, qu'il faut absolument corriger, Marcelin?
Je n'emploierai peut-être pas le mot « erreur ». Tout commence, comme je l'ai dit tantôt, par la vision et l'approche. Je suis de ceux qui estiment qu'il faut, comme le proverbe chinois le dit, apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui donner du poisson. L'approche aide, l'approche humanitaire, aller soigner le paludisme ici et là, tout ça c'est bien beau, mais il faut attaquer selon moi le moteur. Et pour moi le moteur c'est le economic empowerment. Faire en sorte que sur le continent, la capacité de production soit celle qui soit le moteur de l'approche et de la coopération. Ce sont des approches que les États-Unis ont utilisées par le passé, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall, et ce sont des approches qui ont marché et qui ont bénéficié et à l'Europe et aux États-Unis. Si nous avons sur le continent un secteur privé dynamique, un secteur manufacturier qui produit des biens, et qui met, je veux dire, les gens au travail, emploie les jeunes. Les gens ont du revenu, les gens vont soigner eux-mêmes leur paludisme. Je le dis de façon crue, mais c'est vraiment ma pensée profonde. Donc, il faut sortir donc de cette approche humanitaire pour faire du business. Et faire du business, c'est avoir en face des grandes compagnies américaines qui vont sur le continent, avoir en face d'elles des compagnies aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, au Burundi, au Mali, au Nigeria, qui ont du répondant et qui peuvent faire du business donc avec ces compagnies internationales. Nous aider dans des domaines aussi simples que la transformation des produits primaires. La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. Nous sommes aussi premier producteur de noix de cajou. Quand vous regardez la noix de cajou que nous achetons dans les supermarchés ici aux États-Unis, et vous voyez la noix de cajou brute qui est produite par mes cousins dans les villages en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une grande différence en termes de transformation. On a juste grillé, on a mis du sel et on a mis dans des paquets. Je pense que nos partenaires, notamment les Américains, peuvent nous encourager, peuvent nous aider à faire ce genre de transformation légère sur le continent. Dans la chaîne de valeur, ce n'est pas parce qu'on nous aide à transformer ces cajou en Côte d'Ivoire ou sur le continent que les compagnies américaines vont perdre pour autant. La chaîne de valeur, en bout, il y a la commercialisation. Donc, ces entreprises-là peuvent, par exemple, se spécialiser dans la commercialisation ici, pendant que nous, nous produisons et empaquetons ces noix de cajou sur le terrain là-bas, et ça donne de la valeur ajoutée et ça emploie du monde. Donc, c'est vraiment cela. Ce n'est pas des erreurs, comme j'ai dit, mais c'est des changements d'approche que nous devons opérer et miser sur la capacité de production, la force de production du continent, et faire en sorte que cette force de production puisse être exploitée et vivifier donc le secteur privées sur le continent et pouvoir donc avoir des relations de business entre les compagnies américaines et des compagnies africaines qui seraient implantées dans tous nos pays et donc qui feraient la production manufacturière, comme je l'ai dit.
Professeur Cody, quels sont les défis éventuels et comment les contourner?
Je crois que le premier défi, c'est d'abord essayer d'éliminer ce réflexe qui date, je dirais, peut-être même de la guerre froide, où l'approche, n'est-ce pas, de créer des pôles de contrôle ici et là. Et donc, fondamentalement, il faudrait peut-être que l'administration Biden, l'Europe ou si vous voulez même à l'intérieur de l'Afrique, que les gens comprennent que le développement d'un pays, d'un continent, d'une région, doit nécessairement passer par la création d'emplois au niveau local. Et pour cela, il faudrait bien entendu créer un système de production, comme le vient de lire Marcelin. Parfois, ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées, mais qui demandent quand même une certaine expertise. Et donc, quand on aura créé un système de production au niveau local, on va fixer les jeunes, on va fixer, n'est-ce pas, les populations qui, avec un certain gain, je veux parler de revenus en termes d'argent, mais ces gens-là pourront évidemment résoudre certains petits problèmes qui aujourd'hui sont plus ou moins pris en charge par des bienfaiteurs qui viennent d'Europe ou des États-Unis. La création d'emplois, je crois que c'est là où se trouve le fondement, n'est-ce pas, de cette relation qui est très déséquilibré entre l'Afrique et les différents pays, je pense plutôt à l'Europe et aux États-Unis. Et donc la création d'emplois, c'est vraiment là où il faut passer. Et pour cela, évidemment, nous avons besoin, n'est-ce pas, de la contribution de nos partenaires, pas en termes d'aide, mais en termes de partenariat. Et je crois que c'est un mot clé ici, parce que l'aide internationale, nous l'avons vu depuis des années, on ne voit pas vraiment les résultats. Par contre, une collaboration d'égal à égal pour la mise en place d'un moyen de production, je crois que c'est là où on devrait réfléchir à des moyens d'arriver à ce point.
Merci à Marcelin Kofi Alé, conseiller principal de l'administrateur pour l'Afrique au FMI. Je rappelle qu'il s'exprimait à titre personnel dans cette émission. Merci.
Merci Eric. Si tu permets donc un dernier mot sur la question de la démocratie concernant les États-Unis ici. En tant qu'observateur, vraiment, les leçons aussi, il y a des leçons que moi je voudrais tirer pour nos frères et sœurs américains. C'est que la démocratie, c'est vraiment un processus à parfaire de façon continue. Mon observation, c'est que avec tout ce qu'on a vu sous l'administration Trump, il y a encore des points de faiblesse ici qu'il faut boucher. De la même façon que les trois mandats du président Roosevelt ont réveillé l'Amérique et qu'elle a été obligée de faire un amendement à la Constitution pour limiter à deux mandats présidentiels, je pense qu'il y a un certain nombre de normes et de traditions qui sont suivis ici depuis toujours, mais le président Trump a montré la faiblesse de ces normes et traditions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses désormais qu'il faut mettre à l'écrit pour obliger tous les présidents à suivre. Il y a eu beaucoup d'assauts contre donc les institutions et la démocratie elle-même, la démocratie américaine, mais pour lesquelles il n'y avait pratiquement pas de texte qui était prévu pour arrêter le président. Heureusement qu'en dernier ressort, la force des institutions comme le Congrès donc, ont permis de préserver l'essentiel et de faire respecter donc, le résultat des élections qui se sont passées. Mais il y a beaucoup de choses à parfaire, il y a beaucoup de points de faiblesse donc vraiment qu'il faut colmater et mettre sur papier un certain nombre de règles, de pratiques, d'élégance qui étaient suivies par tous les présidents, mais qui viennent de montrer qu'on peut avoir quelqu'un qui décide d'en faire à sa tête, de ne pas suivre ses règles pratiques d'élégance et puis rien ne peut lui arriver. Il faut maintenant écrire ces choses-là noir sur blanc et obliger tout le monde à les respecter. Ça va renforcer la démocratie américaine. Merci vraiment, Eric.
Merci au professeur Edgar Colley, ancien du Monterey Institute of International Studies en Californie. Merci, professeur.
Merci bien. Merci de m'avoir invité à cette émission. J'ajouterai tout simplement une petite chose. J'ai toujours milité et je continue à le faire pour la suppression des élections avec du système des grands électeurs aux États-Unis. Je crois que c'est un système archaïque qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui.
Merci à Lionel Lunanila Gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Manila Kiza était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.